Gouroglou, première rencontre. Ce premier chant est textuellement traduit de l'anglais. Gouroglou était un turcoman de la tribu de Tuka. Son véritable nom était Rouchan et celui de son père Mirza Serraf. Ce dernier était au service du sultan Mourad, gouverneur d'une des provinces du Turkestan, en qualité de chef des haras de ce prince. Un jour que les cavales paissaient dans les prairies qui s'étendent le long du Jaïoun, un étalon sorti de la surface des eaux gagna la rive, courut vers la troupe des cavales, et après s'être accouplé à deux d'entre elles, il se replongea dans le fleuve où il disparut pour jamais. Cette étrange nouvelle ne fut pas plutôt rapportée à Mirza Serraf, qui se rendit à la prairie. Et ayant fait des marques distinctes aux deux juments désignés, il recommanda au gardien d'en avoir un soin particulier. Puis, de retour chez lui, il consigna sur ses livres les détails de l'apparition de l'étalon et enregistra la date précise de cet événement. On sait qu'une jument donne toujours naissance à son poulain étant debout. Quand le terme fut arrivé, Mirza Serraf, qui était présent à leur naissance, reçut les jeunes poulains dans le pan de sa robe afin qu'ils ne fussent point blessés par le contact avec la terre. Il dirigea lui-même avec le plus grand soin leur première éducation pendant les deux années suivantes et surveilla les progrès de leur croissance. Malheureusement, leur mauvaise mine n'était pas propre à inspirer beaucoup d'espoir pour l'avenir. Ils paraissaient laids à première vue et leur robe épaisse semblait être de crin plus que de poils. Un des devoirs de la charge de Mirza Serraf était de visiter à tour de rôle tous les haras confiés à ses soins afin de mettre à part les meilleurs poulains pour les écuries du prince. Dans cette occasion, les deux poulains merveilleux furent au nombre de ceux qu'il choisit. Quand le prince vint en personne visiter ses écuries, il examina attentivement les chevaux amenés par Mirza Serraf et approuva tous les choix, à l'exception des deux poulains en question. Plus il les regardait, plus ils lui semblaient hideux. Il fit amener en sa présence le chef de ses haras, et s'adressant à lui d'une voix courroucée, « Vassal, lui dit-il, qu'est-ce que cela signifie? Me crois-tu donc dépourvu d'instruction ou d'intelligence, ou bien es-tu devenu si vieux que tu ne puisses plus distinguer un bon cheval d'un mauvais ?» Que prétends-tu en m'amenant ces deux misérables inconnus ? Alors, transporté de rage, le prince ordonna que Mirza Serraf eût les yeux crevés. Cette sentence fut immédiatement exécutée. Un fer rouge fut appliqué sur le globe des yeux de l'infortuné Mirza, qui fut ainsi privé pour jamais de la lumière. Aveugle et désolé, il fut reconduit dans sa maison. Son fils unique, Rouchan, jeune homme de 19 ans, étudiait alors à l'une des écoles de la ville. Aussitôt qu'il eut appris le châtiment infligé à son père, baigné de larmes, il accourut vers lui. « Ne pleure pas, mon fils, lui dit le vieillard, qui était un des plus habiles astrologues de son siècle. J'ai examiné ton horoscope et ma science infaillible m'a découvert que tu deviendrais un héros célèbre. Tu vengeras mes souffrances sur la personne de l'injuste tyran qui me les a infligées. Va à l'instant voir le prince et parle-lui ainsi. Seigneur, tu as fait crever les yeux de mon père à cause d'un poulain. Sois miséricordieux et fais-lui présent de l'animal. Sans cela, mon pauvre père, qui est vieux et aveugle, n'aura pas de cheval à monter pour se rendre à la distribution des aumônes qui se font dans ton palais. » Rouchan fit ainsi qu'il lui avait été dit. Le prince, dont la colère avait eu le temps de se calmer, accorda au jeune homme la permission d'entrer dans ses écuries et de prendre celui des deux poulains condamnés qui lui plairait le mieux. Rouchan choisit celui qui était gris parce que son père lui avait dit que la jument qu'il avait portée était d'une plus noble race que l'autre. De retour à la maison avec le don du prince, Roushan reçut de son père l'ordre de creuser un souterrain. « Il nous servira d'écurie, » lui dit celui-ci. « Fais-y 40 stalles et entre chaque stalle tu feras un réservoir pour l'eau. Par la combinaison d'un certain nombre de ressorts dont je t'enseignerai l'usage, l'or et la paille seront distribués en temps convenable à notre poulain qui mangera sa ration sans l'assistance d'un palefrenier. L'eau lui arrivera de la même manière en temps convenable. Tu maçonneras soigneusement la porte et jusqu'au moindre fente de l'écurie, car il est indispensable que notre cheval demeure seul durant 40 jours et que ni l'œil de l'homme ni les rayons du soleil ne viennent le troubler dans sa solitude. » Les instructions du père furent exécutées par le fils avec la plus scrupuleuse fidélité. Le poulain fut introduit et enfermé dans sa nouvelle demeure. Il y avait déjà 38 jours qu'il y demeurait, caché à tous les regards, lorsqu'au 39e, la patience de Roushan fut épuisée. Il s'approcha de l'écurie, ayant fait un trou de la grandeur de l'œil, il commença à regarder dans l'intérieur. Le corps entier du poulain lui apparut brillant et resplendissant comme une lampe. Mais la lumière qui en jaillissait s'affaiblit instantanément et puis s'éteignit comme par l'effet du simple regard de Roushan. Il eut peur et, refermant précipitamment la petite ouverture, il retourna vers son père auquel il ne dit rien de ce qui était arrivé. Le lendemain, juste à l'heure où venait d'expirer le 40e jour de la claustration du poulain, Mirza dit à son fils, « Le temps est accompli, allons chercher notre cheval et commençons à le dresser. » Ils furent ensemble à l'écurie. L'aveugle commença à tâter la robe de l'animal. Il promena sa main sur la tête et sur le cou, sur les jambes de devant et sur celles de derrière, comme s'il eût cherché quelque chose. Et tout à coup il s'écria, « Mais qu'as-tu fait, malheureux enfant? Oh, il eût mieux valu pour moi que tu fusses mort dans ton berceau. Pas plus tard qu'hier, tu as laissé la lumière tomber sur le poulain. » « Tu as deviné juste, mon père, mais comment as-tu fait pour découvrir cela ?»« Comment j'ai fait? Mais ce cheval avait des plumes et des ailes qui ont été brisées par suite de ton imprudence. » À ces mots, le cœur de Roushan fut rempli d'amertume et il tomba dans une profonde tristesse. Mirza lui dit alors, « Perds pas courage, nul cheval vivant ne pourra jamais approcher de la poussière que soulèveront les pieds de ce coursier. » Ayant dit ainsi, l'aveugle enseigna à son fils à seller le poulain avec une selle de feutre et lui prescrivit de le dresser de la manière suivante. Tu le feras trotter pendant les 40 premières nuits sur les rochers et dans les plaines pierreuses, et pendant les 40 nuits suivantes dans l'eau et les marécages. Quand ceci fut accompli, Mirza Seraf mit son cheval au galop, qu'il soutint admirablement, soit en avant, soit à reculons. L'éducation du noble animal ayant été ainsi complétée, il commença à s'occuper de celle de son fils. « Monte ton cheval, lui dit-il, fais-moi place derrière toi et traversons l'Oxus. » Pendant qu'il s'amusait ainsi, le vieillard, expérimenté, initiait son fils à tous les stratagèmes de l'art de l'équitation et du métier des armes. « C'est bien, » dit-il un jour à Roushan, « je suis content de toi, mais il nous reste encore une chose à faire. Notre prince vient quelquefois chasser sur les bords de l'Oxus. C'est là que tu l'attendras. La première fois que tu le verras venir de ton côté, revêt toutes les pièces de ton armure et, monté sur ton cheval, va hardiment à la rencontre du tyran. Alors tu lui diras, c'est beau. « Prince injuste et cruel, Contemple le cheval à cause duquel tu as fait crever les yeux de mon père. Regarde bien ce qu'il est devenu et meurs d'envie. » Roshan obéit fidèlement à l'ordre de son père. La première fois qu'il aperçut le prince prenant le plaisir de la chasse sur les bords de l'Oxus, il revêtit son armure et courut droit à lui. Le prince, émerveillé de la beauté peu commune du cheval, aussi bien que de la noble apparence du cavalier, dit à son vizir: « Quel est ce jeune homme ?» Roshan, invité à s'approcher du prince, ne manqua pas de lui répéter d'une voix ferme et menaçante le discours que son père lui avait enseigné, et il ajouta: « Prince stupide, tu te crois un bon connaisseur de chevaux? Écoute, ignorant, et apprends de moi quels sont les signes auxquels on reconnaît un cheval de noble race. » Et cela dit, il improvisa le chant suivant. Improvisation. Je viens et je te dis, écoute, ô prince, et apprends à quoi se fait reconnaître un noble cheval. Actif et alerte, vois si ses naseaux s'enflent et se distendent alternativement, si ses jambes sèches et déliées sont comme les jambes de la gazelle, prêtes à commencer sa course. Ses hanches doivent ressembler à celles du chamois. Sa bouche délicate cède à la plus légère pression de la bride comme la bouche d'un jeune chameau. Quand il mange, ses dents broient le grain comme la meule d'un moulin en mouvement, et il l'avale comme un loup affamé. Son dos rappelle celui du lièvre. Sa crinière est douce et soyeuse. Son cou est élevé et majestueux comme celui du paon. Le meilleur temps pour le monter est entre sa quatrième et sa cinquième année. Sa tête est fine et petite comme celle du grand serpent chameau. Ses yeux sont saillants comme deux pommes, les dents semblent autant de diamants. La forme de sa bouche doit approcher de celle du chameau mâle. Ses membres sont finement dessinés et plutôt arrondis qu'allongés. Et quand on sort de l'écurie, il est joyeux et il se cabre. Ses yeux ressemblent à ceux de l'aigle et il marche avec l'inquiète impatience d'un loup affamé. Son ventre et ses côtes remplissent exactement la sangle. Un jeune homme de bonne famille prête une oreille obéissante aux leçons de ses parents. Il aime son cheval et en prend le plus grand soin. Il sait par cœur la généalogie et la pureté de son sang. Il essaie souvent la vigueur des articulations de son genou. En un mot, il doit être ce qu'était Mirza Seraf dans sa jeunesse. Dès que le prince eut entendu cette improvisation, il dit aux gens de sa suite: « Ah, mais c'est là le fils de Mirza Seraf! Holà, qu'il soit arrêté !» Roshan fut immédiatement entouré de tous côtés. Mais, sans paraître s'en apercevoir, il parla ainsi au sultan Mourad. Improvisation. « Écoutez, mon prince, il me revient en mémoire quelques stances de vers agréables. Permettez-moi de vous les réciter. » Le prince y consentit et ordonna à ses gardes de ne pas toucher à Roshan, qu'il lui dit ses vers. Alors ce dernier commença l'improvisation suivante. Mon prince a donné l'ordre de me punir, mais par Allah, je sais comment me défendre. Je m'échapperai de ses mains. En vain m'offrirais-tu tes richesses et tes faveurs, comme on jette la pâture à l'aigle vorace et affamé. Oh, je les rejetterai toutes. Le prince l'interrompit et lui dit: cesse tes vaines bravades, viens, et serre-moi fidèlement, autrement je te ferai mourir. » Roshan chanta alors ainsi. Improvisation. Je suis appelé Dieu dans ma maison, oui, je suis un Dieu. Je ne courberai point mon cou devant un lâche comme toi. La cruche a porté l'eau assez longtemps pour toi, mais à la fin, la cruche s'est brisée. Le prince lui dit: « Ton père a été mon serviteur pendant 50 ans. Dans un moment de colère, j'ai ordonné qu'on lui crevât les yeux. Mais qui déniera au maître le droit de punir son esclave, afin de pouvoir ensuite le combler de ses faveurs? Viens avec moi, tu apprendras à m'être agréable et je te récompenserai. Yoshan répliqua, « Tu as éteint les yeux de mon père, et à ce prix tu veux me faire riche. Si Dieu me donne assez de vie, je te ferai subir la peine du talion, mais écoute. » Improvisation. C'est toi-même qui as construit l'édifice de la ruine quand tu as prêté l'oreille à des calomniateurs. Je perdrai la vie et je renverserai ton trône. Ces paroles firent sourire le prince et il lui demanda ironiquement « Comment, Ushan, te sens-tu assez fort pour détruire mes villes et pour renverser mon trône ?» Ushan improvisa le chant suivant. « Assez de forfanterie. Que sont à mes yeux 30, 60 ou même 100 de tes guerriers? Que sont vos rochers, vos précipices et vos déserts sous le sabot de mon coursier? Je suis le léopard des montagnes et des vallées. » Cette strophe est habituellement chantée par les Turcs avant qu'ils s'élancent sur l'ennemi. Le prince reprit, « Viens plus près de moi, ne fuis pas. Je jure par la tête des 4 premiers califes que je te ferai sirdar de mes troupes. » Et pendant qu'il parlait ainsi, il admirait le courage du jeune homme. Ushan répliqua et dit, « Maintenant, mes chants sont aussi bien que mes exploits, seront connus au monde sous le nom de Kurroglou, le fils de l'aveugle dont tu as crevé les yeux. » Kur signifie aveugle et Oglou, fils. Improvisation. Écoute les paroles de Kouroglou. La vie m'est un fardeau. De ce jour, j'abandonne ma tête au hasard de la fortune, comme la feuille d'automne s'abandonne à l'âpre souille des fans. Avec l'assistance de Dieu, j'irai en Perse pour y rétablir la religion d'Ali, qui est vénérée dans ce pays. » Et il finissait à peine ces mots, que, se précipitant au milieu de la suite du prince, il fit un horrible carnage, et le prince, à la fin, convaincu que toutes les armées de la terre ne pourraient venir à bout de le vaincre, ordonna à son vizir d'abandonner une poursuite dangereuse et inutile. Ushan traversa l'Oxus à la nage et se hâta de rejoindre son père sur la rive opposée. « Tu vas manger, mon fils, lui dit ce vieillard. Que Dieu t'en récompense. Quittons maintenant cette contrée. Non loin d'Héran, je connais une oasis où tu vas me conduire. » Ushan obéit, et quand ils eurent atteint l'oasis, Mirza Seraf tira de dessous son bras un vieux livre d'astrologie, qui ne le quittait jamais, et dit, « Oh, mon fils, cherche dans ce livre un passage qui traite de l'apparition de 2 étoiles, l'une à l'Orient et l'autre à l'Occident. » « Père, je l'ai trouvé. »« Bien. L'oasis où nous sommes contient une source d'eau. Quand la nuit qui précède le vendredi sera arrivée, tu veilleras avec ce livre dans la main en répétant continuellement la prière qui se trouve à ce passage du livre. Les jeux devront suivre avec la plus grande vigilance tes jeux des 2 étoiles jusqu'au moment où elles se rencontreront. Alors, tu verras la surface de l'eau se couvrir d'une écume blanche. Prends ce vase que j'ai apporté tout exprès, tu y recueilleras soigneusement l'écume et tu me l'apporteras sans délai. » Quand la nuit désignée fut venue, Ushan remplit toutes les instructions de Mira Seraf, et déjà il revenait avec le vase plein de l'écume mystérieuse, mais elle était si blanche, si légère et si fraîche, que le jeune homme inexpérimenté ne put résister à la tentation. Il avala l'écume. J'ai accompli toutes tes prescriptions, dit-il à son père. L'écume, cependant, ne s'est pas montrée sur l'eau de la source. Mirza Seraf répondit. L'écume apparut sur l'eau de la source, j'en suis certain. Confesse la vérité, qu'en as-tu fait? Bouchan était sincère, il avoua sa faute. Alors le vieillard, frappant son genou avec ses deux mains, « Qu'as-tu fait, malheureux ? » s'écria-t-il. « Sois maudit et puisse ta maison tomber sur ta tête. Tu m'as ravi le bonheur de te revoir. Cette écume était un remède précieux et unique, un collyr qui avait la puissance de guérir ma cécité. Je l'avais employé une portion pour toi, et je t'eusse laissé boire le reste. Mais les décrets du sort sont irrévocables. Tu deviendras un guerrier invincible, et moi, je mourrai aveugle. Tout est consommé, maintenant. » Le pauvre vieillard commença alors à dicter ses dernières volontés. « Mes jours sont comptés, dit-il. Désormais, tu prendras le nom de Kouroglou, le fils de l'aveugle. Tes vers et tes actions seront attachés pour toujours à ce surnom. Et maintenant, conduis-moi, Mouchan, sur le nom de Kirat, car c'est ainsi que tu devras nommer ton cheval. » Kouroglou plaça son vieux père derrière lui et marcha vers la ville sacrée de Mouchan, où ils arrivèrent en peu de temps grâce à la vigueur surnaturelle de leur cheval. Ce fut dans cette ville qu'ils embrassèrent la foi d'Ali et d'impies sunnites qu'ils étaient, devinrent chéis et vrais croyants. Ce fut là aussi que Mirza Seraf mourut, et voici quelles furent ses dernières paroles. « Aussitôt que je serai mort, rends-toi dans la province d'Azerbaïdjan, dont le chat de Perse est souverain. » Il voudra t'attirer à sa cour. N'y va pas, mon fils, mais ne te révolte pas non plus contre lui. » Il dit et il expira. La deuxième rencontre. La seconde rencontre est consacrée à faire rencontrer en effet Kouroglou et le terrible bandit d'Ali Hassan. Ce dernier prétend avoir le monopole du pillage et du meurtre. Il rit de pitié en voyant un ennemi si jeune venir tout seul pour le défier au milieu de 40 de ses meilleurs garnements. « Le monde entier retentit de ma gloire !» s'écrie Ali Hassan, qui ne se pique pas de modestie. « Et le pauvre diable où me barrait le chemin ?»« Misérable !» lui répond Kouroglou. « Tu ne t'es jamais battu qu'avec des agneaux. Tu ne sais pas encore ce que c'est qu'un bélier. » Le bélier est apparemment, chez cette race de pasteurs, le type du courage et de la force. Car Kouroglou, qui n'est pas modeste non plus, se compare de préférence à cet animal dans ses fréquentes venteries, et quand il a dit « Je suis Kouroglou le bélier », il a tout dit. Dali Hassan ne se presse pas d'entamer le combat. Les bravades de son ennemi l'amusent, et il lui permet d'improviser et de chanter les stances qui lui viennent à l'esprit, comme dit Kouroglou, en semblable occasion. Ces stances sont toujours belles d'énergie sauvage, et le refrain de celle-ci est un cri d'impatience. Ne combattrons-nous donc pas aujourd'hui ? En voici une qui ne manque pas de caractère. Montre-moi un homme qui puisse tendre mon arc. Montre-moi un homme qui, comme un bélier, vienne frapper sa tête contre mon bouclier. Je puis broyer l'acier entre mes dents et te cracher contre le ciel. Oh, ne combattrons-nous donc pas aujourd'hui ? Pendant que Kouroglou chante ses trophées, Dali Hassan examine Kirat, l'incomparable Kirat, le fils de l'étalon spectre, le coursier fidèle, l'ami, le porte-bonheur de Kouroglou. Et il en devient épris. Fais-moi présent de ton cheval, dit-il, et je m'abstiendrai de verser ton sang. Kouroglou répond par de nouvelles provocations, et le combat s'engage. En un clin d'œil, 20 des compagnons de Dali Hassan sont expédiés aux enfers. Les 20 autres prennent la fuite à travers le désert. Dali Hassan reste seul. Dévoré de rage, il se précipite sur son ennemi. Mais Kouroglou lui fait mordre la poussière, pousse un cri comme celui d'un aigle, descend de cheval, et s'asseyant sur sa poitrine, tire tranquillement son kaljar pour lui couper la tête. Dali Hassan se prend à pleurer. « Misérable bâtard, lui dit Kouroglou, es-tu donc celui qui depuis 7 ans faisait les froids de ces contrées? Tu n'es qu'une femme pusillanime, lâche, tu verses des larmes pour une cuillerée de sang. » « Guerrier invincible, lui répond Dali Hassan, j'ai juré à Dieu et à moi-même de servir fidèlement l'homme qui pourrait me renverser sur le dos. Prends-moi pour ton esclave et dis-moi le nom de mon maître. » Kouroglou est ému de pitié. Il se lève, rengaine son poignard et suit Dali Hassan dans une caverne où celui-ci le rend maître des richesses immenses qu'il a amassées durant les 7 années de son brigandage. À partir de ce jour, il est le serviteur et l'ami de Kouroglou. Ils demeurent ensemble plusieurs mois dans la caverne et n'en sortent que pour augmenter leur trésor en détroussant les voyageurs et pour enrôler des bandits sous leurs ordres. Quand ils ont réussi à se composer une bande de 77 hommes, ils chargent leur butin sur des chameaux et sur des mules, et poursuivant leur voyage vers la province d'Azerbaïdjan, ils atteignent bientôt les montagnes de Kafrankou. Ils laissent leurs hommes et s'en vont tous deux à la découverte pour s'assurer d'une retraite sûre. Ils trouvent dans le district de Karadagh une magnifique prairie où ils s'installent avec leurs richesses et leurs compagnons. Leurs exploits répandent bientôt la terreur dans le pays et tout homme courageux vient s'enrôler sous leur bannière. Ils traitaient ces gens comme un père et la paix qu'il leur faisait était si libérale qu'elle pouvait remplir le creux du bouclier de chacun d'eux. En peu de temps, Kouroglou se voit à la tête de 777 hommes, nombre sacré qu'il n'eût dépassé vraisemblablement que pour celui de 7777, s'il lui était possible dès lors d'y atteindre. Cependant, le gouverneur de la province commence à s'alarmer du voisinage de Kouroglou. Il lui dépêche un envoyé qui, sans fleur de rhétorique, lui parle ainsi. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu venu ici? Si tu désires parler au souverain d'Iran, on va le trouver, mais ne meurs pas ici plus longtemps. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écouterai afin de savoir ce que c'est. » Kouroglou trouve le discours de l'ambassadeur un peu familier, mais il se ressouvient de la défense que son père lui a faite en mourant de se révolter contre le Shah de Perse. Il traite donc l'envoyé fort honnêtement et lui promet d'évacuer le pays sous peu de jours. Il rassemble ses hommes et leur chante ceci. « L'heure du départ est arrivée. Que quiconque veut me suivre dans le Kurdistan se tienne prêt. Qu'il me suive celui dont les lèvres veulent boire dans la coupe de la valeur. Qu'il me suive celui qui veut mettre en pièces le linceul de la mort. » Les 777 brigands répondirent « Ô Kouroglou, nous ne craignons pas la mort, là où tu iras, nous irons. » Ils partent. Ils arrivent dans la vallée de Galzigoul, située dans le voisinage de Khoi, et débutent par l'extermination et le pillage d'une caravane. Le gouverneur des Rivanes, Hussein Ali Khan, se met en route à la tête de 1500 cavaliers pour aller réprimer ces brigandages. Ne craignez rien, ô mes âmes, ô mes fous. C'est le nom d'amitié que Kouroglou donne à des compagnons, c'est le titre glorieux que la postérité leur conserve. Ne craignez rien, je les disperserai en moins d'une heure. » Kouroglou dit, et revêtu de sa cotte de maille, armé de toutes pièces, il attend, appuyé tranquillement sur sa lance, l'envoyé du Sein. Aux interrogations et aux menaces de l'envoyé, Kouroglou répond comme de coutume par une chanson. « Serdar, lui dit-il, j'ai l'habitude de chanter quelques vers avant de combattre. »« Chante, si tu y es disposé, répond le Serdar, amateur de poésie comme tous les orientaux. » Kouroglou chante ici une fort belle strophe. « Voici la vérité des vérités. Écoute-la bien, mon Serdar. Je suis l'ange de la mort. Regarde, je suis Azraïl. Mes yeux aiment la couleur du sang. Oui, je suis venu pour arracher les âmes des corps. Je suis le véritable Azraïl. Nous verrons bientôt quelles entrailles, quels crânes seront fouillés les premiers par la pointe de mon poignard. Ce jour même, tu quitteras ce monde. Me voici. Comme un véritable Azraïl, je viens arracher les âmes. Maintenant, j'enseignerai à rire à tes ennemis et à tes amis à se lamenter. Contemple en moi Azraïl, exterminateur des âmes. » Kouroglou s'élance au plus épais de la mêlée. Il tue tout ce qui est digne d'être tué, il pille tout ce qui vaut la peine d'être pillé. Kouroglou, cependant, ne resta pas davantage à Ghazil Ghul. Il vint se fixer définitivement à Chamli Bil. Sa gloire se répandit bientôt dans les contrées environnantes, et de toutes parts on lui envoyait de l'or et des présents.